Bienvenue sur le podcast Women Empowerment School. Je m'appelle Mariana Seib et je suis fondatrice d'un réseau de femmes entrepreneurs face-to-face et master coach certifiée en développement personnel. Je conçus ce podcast en pensant à toutes les femmes qui souhaitent accéder à leur puissance intérieure pour créer du changement dans leur vie et entreprendre les projets les plus audacieux. Ensemble, nous allons apprendre à mieux nous connaître, lever nos barrières et accéder à notre intuition féminine pour mener la vie dont nous rêvons profondément. Alors, si tu souhaites développer ton business et créer de l'impact dont tu seras fière, ce podcast est fait pour toi. Et si après avoir écouté cet épisode, tu penses à quelqu'un qui pourra en bénéficier, n'hésite pas à le partager et à laisser un avis 5 étoiles pour augmenter sa visibilité. Alors, prête pour changer ta vie? Allez, on commence! Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de vous présenter Nicole Prieur, qui est essayiste, thérapeute et conférencière française née à Alger. Cette femme multicasquette dirige une étude nationale sur les relations parents-adolescents qui aboutit à la parution de son premier livre « Adulte-adolescent, des rendez-vous manqués » édité par Casterman. Elle exerce comme psychothérapeute en s'orientant vers l'hypnose comme processus de changement thérapeutique. Elle dirige des cycles de formation à l'hypnose au sein de centres d'études cliniques, de communication familiale et supervise des praticiens. Elle s'intéresse également à la place de l'argent dans la vie de famille. Son dernier livre, « Les trahisons nécessaires », m'a été conseillé par son mari, Bernard Prieur, qui m'a accompagnée en thérapie des couples au moment fragile de ma vie de couple. C'est lui qui m'a fait glisser ce livre en disant « Ça vous fera du bien, madame ». « Les trahisons nécessaires » m'a bouleversée et je me suis rendu compte à un moment que j'ai souligné plus de phrases avec mon Tipex que j'ai laissé libre. Et à la page 30, j'ai décidé de contacter Nicole directement en me disant « Il faut qu'on parle ». Et j'ai très envie de partager avec vous son univers. Bonjour Nicole.
Bonjour Marianne.
Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très touchée. Et on va plonger avec cette question que je pose à toutes mes invitées, oui. Que je trouve déjà directement dans le sujet, dans le vrai. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement dans quel cadre familial vous avez grandi? Et qu'est-ce qui a façonné votre manière de penser, votre système de valeurs?
Ce n'est pas rien, effectivement, comme question pour une psy qui doit commencer à apprendre à se raconter. Mais pourquoi pas? Non, c'est certain, j'ai grandi dans une famille apparemment très traditionnelle. Papa, maman, grands-parents. Au fur et à mesure, je me suis aperçue qu'il y avait des grands-parents, surtout maternels, très présents et merveilleux pour moi. Et un père qui s'absentait, bon. Et voilà. Et finalement, derrière cette famille, quand même très unie, il y avait des secrets, des mystères, des non-dits, des trahisons, un certain nombre de choses qui n'apparaissaient pas du tout au grand jour. Hein. En tous les cas, les trahisons n'apparaissaient pas du tout au grand jour. Et c'est une famille aussi qui a vécu un exil, puisque mes parents, mes grands-parents, toute la généalogie avant moi vivait en Algérie. Et donc, ils sont venus au moment de la guerre d'Algérie, qui ne se nommait pas comme une guerre d'Algérie, ils sont venus en France, donc il y a eu un déracinement. Et du coup, tout cela, des non-dits que quand même je devais pressentir, et un secret que j'ai découvert plus tard, je crois, m'ont orienté, ces trois éléments m'ont orienté vers deux choses. D'abord, quand j'ai commencé à connaître le secret de la famille, c'était un grand-père mort en prison dans des conditions complètement mystérieuses, un mystère qui n'a jamais été levé. Et quand j'ai entendu cette histoire, j'ai compris mon absolu besoin de ne jamais être enfermé. Même pas dans des idées, même pas dans des convictions, surtout pas dans des chapelles. Donc voilà, j'ai fait le lien avec sûrement ce grand-père que je n'ai jamais connu, mais à partir duquel, surtout, ne jamais être prisonnière de quoi que ce soit. Ça, c'est une chose. L'exil, c'est autre chose que j'ai pu apprendre. Un exil qui, par rapport à d'autres familles pieds-noirs, mes parents, mes grands-parents n'ont jamais regretté. Je n'ai pas été élevée dans une perte douloureuse du passé. Mais au contraire, une liberté, encore une fois, de la France, une très grande estime de la France. Et du coup, pour moi, c'était très important. Je crois que j'ai appris, grâce à ça, le mouvement. J'ai appris à être nomade, à toujours partir d'un lieu pour peut-être y revenir, mais à avoir besoin de bouger, de changer. Et donc, encore une fois, une autre forme de liberté. Et peut-être la troisième chose que j'ai appris de ma famille, c'est que, donc, elle était composée de personnages très différents. Et je crois que chacun m'a nourri de bienveillance, d'amour, de curiosité, d'indépendance. Et je crois que vraiment, quelque part, je réunis un peu en moi plein de choses de cette famille-là.
Déjà, il y a quelque chose pour moi qui ressort très fort, c'est que parfois on est enfermé dans un discours, dans une narration autour du passé qui peut être enfermante dans ce côté « je suis une victime de quelque chose » ou dans cette nostalgie « on a perdu quelque chose ». Vous êtes tourné vers l'avenir, vous avez cette chance de traiter ce départ comme constamment. Un nouveau départ, comme tout est possible en fait.
Constamment. Et si vous voulez, ça peut-être que ça me rapproche de la question de l'hypnose.
Et j'ai très très envie de vous poser cette question. On est très connectés déjà. Alors, ah oui. Cette question, c'est donc cette liberté dont vous parlez, liberté d'esprit, vous amenez l'hypnose à la thérapie.
Oui.
C'était deux univers très séparés et pas forcément.
Et opposés.
Et
antagonistes.
Voilà. C'était pas le bienvenu de nourrir l'un par l'autre.
Oui.
Et vous osez ce pas. Par quoi ça passe cette expérience justement?
Alors, ça passe par une rencontre. Alors, une rencontre exceptionnelle avec François Roustan, qui a été vraiment un homme exceptionnel dans son apprentissage. C'est grâce à lui que j'ai appris l'hypnose. Et ça a commencé parce qu'à un moment donné, j'ai voulu faire un travail personnel et qu'une amie me disait, alors je ne savais pas vraiment vers qui me tourner, ce n'est pas facile en tant que psy, et déjà, voilà, ayant déjà un nom sur la place publique, vers qui aller effectivement. Et une amie me dit, ah, je connais quelqu'un qui ne travaille pas d'une manière classique, d'une manière très originale. Il n'était pas très connu encore à l'époque. Hein. Et donc, c'est ce qu'il faut.
Ça va rester entre vous. Personne va savoir.
Et voilà. Et donc, j'ai rencontré cet homme plus que libre. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le parcours de François Roustan.
Non, pas vraiment.
Voilà. Alors, c'était un ancien séminariste qui a trahi l'Église parce qu'il s'est senti trahi par l'Église, parce que trop enfermé, n'acceptant pas les transformations qu'il voulait amener. Il a été un élève de Lacan, j'ai envie de dire très studieux, très loyal, jusqu'à un moment donné où il s'est senti enfermé. Et l'hypnose a été quelque chose pour lui, une révélation. Mais une hypnose, enfin je veux dire, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'une de mes formations de base, ça a été la philo. Et pour moi, la philo, c'est vraiment le territoire où peuvent se conjuguer plein d'éléments qui peuvent apparaître antagonistes, mais qui se complémentarisent. Et Roustan était un philosophe, donc on s'est tout à fait compris.
Peut-être aussi par les symboles.
Par le symbole, bien sûr, bien sûr, par le symbole, par une certaine forme de sagesse. Et surtout parce que la philo nous amène à l'humain dans toute sa complexité. Alors que quelquefois la psy... Ce matin, j'ai fait un groupe de supervision. J'ai dit à mes psys qu'il fallait qu'elles arrêtent de faire les psys.
C'est trop bon pour moi.
Et donc, effectivement, retrouver, et c'est ce que j'ai rencontré avec François Roustan, retrouver l'essence de l'humain, de l'humanité chez l'autre, quelle que soit sa souffrance. Et du coup, l'hypnose, à partir du moment où vous avez cette orientation, cette curiosité vers cette profondeur de l'humain qui est déposée chez pratiquement tout un chacun, toute une chacune, quand vous allez dans cette curiosité que vous avez envie d'animer, et ce n'est pas un mot utilisé comme ça par hasard, redonner une âme, redonner du vivant, c'est à ce niveau-là qu'on a travaillé l'hypnose avec François Roustan. Donc l'hypnose effectivement permet à la fois une grande liberté, mais en même temps une grande éthique. C'est-à-dire un grand, ce n'est pas une liberté de faire tout et n'importe quoi. Et c'est effectivement à la fois, et l'hypnose permet d'articuler les antagonismes. Et là, quand je vous dis ça, je pense
à... On peut avoir un exemple pour que ce soit plus peut-être proche. Je vois un conflit intérieur où on oppose naturellement deux choses, peut-être dont on a envie ou besoin d'accomplir.
Oui.
Et peut-être les réconcilier dans sa vie. Et à travers l'hypnose, on y arrive avant qu'on l'implémente dans la vraie vie.
Tout à fait. Mais écoutez, puisque vous êtes intéressé aux questions de trahison, je pense qu'on peut partir sur cette dimension-là. Mm-hmm. Pour moi, j'essaie de démontrer que tout le monde trahissait de toutes les manières. Et qu'on pouvait être un trait éthique. Donc, ce sont deux termes qui, en général, s'opposent. Donc, c'est un oxymore. Mm-hmm. Et encore une fois, l'hypnose, peut-être, m'a permis de bien comprendre l'articulation. Et j'ai quelque part, pour moi, un trait éthique, c'est un trait qui reconnaît que, quelquefois, on ne peut pas ne pas trahir. Et que pour devenir soi, on est obligé de trahir une certaine partie de nos loyautés qui nous enferment. Je vais expliquer encore plus précisément. Je me suis intéressée à la question de la loi de la trahison à partir du moment où je suis allée voir, et j'ai compris du coup toute sa profondeur de cette notion de trahison, à partir du moment où je suis allée voir l'étymologie de ce mot-là. Trahir vient de tradere. Tradere, au premier sens, voulait dire passer d'un lieu à un autre. Il n'y avait pas de question de morale, ni de condamnation morale. On ne passait pas forcément à un camp ennemi. Donc tradere, passer d'un endroit à un autre. Et du coup, pour moi, toute évolution induit quelque chose de cet ordre-là, de ce passage. Pour moi, une trahison, c'est déjà
un
passage, c'est un mouvement, hein, d'un lieu à un autre. Mm-hmm. Mais tradere a donné aussi traduire et a donné tradition. Et donc la tradition, c'est quelque part quelque chose qui nous relie, j'allais dire presque viscéralement aux origines, donc à quelque chose de ce lieu qu'on est obligé de quitter à un moment donné parce qu'on est trop enfermé. Donc les antagonismes là, c'est à la fois... Pour moi, exister, c'est reconnaître qu'il y a un lieu qui m'a nourri, qui peut-être m'a contraint aussi, qui m'a peut-être enfermé malgré lui, par exemple si on passe à la famille, qui m'a soumis à des injonctions qui pouvaient être sclérosantes. Ce lieu-là, il est important de s'en libérer et de passer à un autre lieu dans lequel je me reconnais plus. Dans lequel, ça peut être aussi l'histoire du couple. Je veux dire, je quitte un couple dans lequel j'ai été plutôt malheureuse, mais pour aller vers un autre couple. Donc, pour moi, quitter, se déplacer, c'est une des dimensions de la trahison. Mais pour moi, un traître éthique, ce n'est pas un renégat. Un traître éthique qui peut devenir heureux, c'est un traître qui reconnaît l'importance de ce lieu qu'il est obligé de quitter parce qu'il ne s'y retrouve plus. Est-ce que ça vous semble clair ?
Très bien. Donc, et pour l'hypnose... moi, ça m'amène à un autre sujet, c'est l'avenir, c'est-à-dire reconnaître le lieu où il va et l'importance de lieu.
Exactement.
Où il va.
Alors, c'est là où on revient à la question, la position de l'hypnothérapeute. Les psychanalystes vont travailler beaucoup sur le passé.
Exactement. Et ça, c'est moi, je vois ça avec mes clientes. C'est cet enthousiasme qu'elles retrouvent aussi dans le coaching. Et l'hypnose qu'on fait, c'est cette idée de s'accrocher et de développer plus son avenir que de rester dans le passé.
Tout à fait, c'est ça.
C'est ça qui rajoute ce dynamisme et l'enthousiasme.
Mais c'est ça. Et parce que pourquoi ? Parce que du coup, l'idée de l'hypnose, c'est ok, malgré tout ce que vous avez pu vivre, alors peut-être il faut aller réfléchir aussi ce que vous avez pu vivre, mais peu importe le travail qu'on en fait sur le passé, à partir de maintenant, tout est possible. Il n'y a pas de destin psychique. Mmh. À partir de maintenant, créez votre vie. Mmh. Et vous en avez les ressources.
J'ai une phrase qui me revient là quand vous dites ça, que j'ai entendue et qui était pour moi assez forte, c'est de savoir que une femme devient une mère à part entière quand elle arrête d'être l'enfant. La fille de sa mère.
Tout à fait.
Quand on commence à prendre nos décisions de façon souveraine, est loyal à soi-même.
Exactement.
Et quand on quitte parfois certaines loyautés, parce qu'on ne les a jamais choisies consciemment, finalement, en tant qu'enfant.
Oui, oui, c'est ça. Mm-hmm. Mais vous voyez, dans cet antagonisme, alors, pour moi, chaque moment est un moment qui nous ouvre sur des milliers de possibles. Chaque moment, chaque instant est effectivement la résultante de tout un passé, mais quel que soit le passé, on peut réinventer un certain nombre de choses. Mmh. Donc les naissances sont toujours des renaissances possibles. Pour moi, il y a toujours des renaissances possibles. Et ça, ce n'est pas une vue idéale du monde. C'est vraiment peut-être ma longue expérience clinique où, effectivement, j'ai vu des gens venir après des drames, après des traumas multiples, etc., pouvoir réinventer leur existence et aller dans quelque chose dans lequel ils se reconnaissent. Pour moi, la notion de se reconnaître est importante. Mmh. Je me reconnais, je suis fière de ce que j'ai fait. Et effectivement,
et ça me ressemble.
C'est ça, ça me ressemble. Mmh. Et je me sens cohérent. Je me sens dans une forme d'unité avec ce que je vis. Mmh. Ce que je vis, c'est vraiment quelque chose qui est dans le prolongement. Et ça donne, j'en ai presque des frissons, ça donne des personnes... Alors, le bonheur, évidemment, c'est jamais 24 heures sur 24, etc. Mais ça donne des personnes qui ont une véritable assise, qui ont un véritable alignement.
C'est alignement, donc exactement.
C'est un nous.
Et ça, c'est récent, c'est presque magnétique, c'est-à-dire on est attiré par ces personnes.
Presque magnétique, presque magnétique.
J'ai envie aussi de dévier un tout petit peu, parce que dans vos études sur la famille, les relations, la parentalité, notamment la transmission, un des sujets qui vous intéresse, c'est aussi l'argent.
Bien sûr.
Ce sujet est un sujet, enfin, c'est ma passion, parce que tellement je découvre de... sujet sous-jacente en fait, tellement il y a de profondeur en fait derrière ce sujet qui paraît au premier regard peut-être très superficiel. Est-ce que vous pouvez partager quelques conclusions? Pourquoi l'argent?
Alors, la question de l'argent, c'est comme la question des trahisons. Nous nous sommes intéressés, et quand je dis nous, c'est parce qu'effectivement avec mon mari, nous organisions des grands colloques et on essayait de trouver des sujets sur lesquels les autres psys ou d'autres sciences humaines n'avaient pas beaucoup parlé. La question de l'argent comme une question des trahisons selon le sens qu'on les regarde nous, la question de l'argent est un véritable tabou pour les patients mais aussi pour les psys. Il n'y a pas grand chose, même maintenant. Voilà, donc on s'est intéressé à l'argent parce que dans les situations de couple, de thérapie de couple comme de thérapie individuelle ou de thérapie familiale, il y avait un véritable mouvement de défense de la part des patients. On ne pouvait pas leur parler de questions, on ne pouvait pas les interroger sur la question de l'argent. C'était plus intime que l'intime de la sexualité. On pouvait connaître toutes les pratiques sexuelles, mais la question de l'argent, et donc l'argent était extrêmement tabou, et ce n'est pas bon pour la psyché. Ça nous enferme. Oui. On est un tabou, nous enferme. On n'avance pas, parce qu'on n'y touche pas, et donc du coup on se brûle. Quand on ne touche pas à ça, on se brûle. Et du coup, on a commencé à comprendre, évidemment, derrière l'argent, il y a évidemment des prises de pouvoir, des prises d'emprise même. Mais surtout, on est allé encore plus loin et finalement, on retrouve un peu la même orientation d'analyse que par rapport aux trahisons. On s'est aperçu, et je dis, là peut-être c'est vraiment mes philosophes qui m'ont aidé, parce que les psys n'ont jamais parlé d'argent, même maintenant ils en parlent peu, mais les philosophes depuis Aristote ont parlé de l'argent. Et très tôt, Aristote a mis en évidence l'aspect paradoxal de l'argent, c'est-à-dire qu'il est une chose et son contraire. L'argent est au service de l'avoir, on peut posséder, ça nous permet de posséder, mais il est au service de l'être. Grâce à l'argent, on peut prendre soin de soi, on peut aller se former, on peut aller... Voilà. Donc voilà, il est au service des deux choses. Il est au service de la liberté. Sans argent, on n'est pas libre. Mais en même temps, il peut emprisonner. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et on s'est amusé à dire, moi qui aime bien les formules, je m'amusais à dire l'argent tabou parce qu'il n'est pas facile à penser aussi. Parce que on ne sait pas faire avec le paradoxe. On ne sait pas faire avec une chose qui est en même temps son contraire. Parce que le paradoxe, ça nous met en tension. À dire que, par exemple, si on parle de l'argent au niveau émotionnel, ne pas en avoir est frustrant, mais quand on en a, on n'est pas pour autant heureux. Donc je vais dire...
Ce sont deux choses distinctes, le bonheur et l'argent.
Oui, exactement.
Et il faut le traiter, c'est pas
vrai. Exactement. Ce sont des choses, il y a une réalité, etc. Mmh. Donc, cet argent tabou nous a intéressés. Et on s'est aperçu que la manière dont l'argent circule dans un couple, dans une famille, institue des places, ordonne effectivement des fonctions et peut enfermer un certain nombre de personnes, dans, surtout les femmes, hein, puisqu'il y a cette inégalité d'origine. Vraiment, ça met en place et ça conforte des positions finalement très dépendantes.
Des soumissions parfois.
Voilà.
Et il y a cette question, à quoi tu dirais plus oui si tu avais l'argent ?
Bien sûr, exactement. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça te donnerait comme liberté ? Mm-hmm. Et le problème de ce dont on s'est aperçu, et je pense qu'il y a vraiment une éducation à faire vis-à-vis des femmes quant à la question de l'argent, parce qu'on s'est aperçu que sous l'égide... Alors, notre rapport à l'argent se construit à travers de beaucoup de choses, mais entre autres, à travers notre société, notre religion, notre culture, etc. Et la doxa va aussi nous mettre dans une certaine forme de pensée par rapport à l'argent. Et cette phrase-là, quand on aime, on ne compte pas, qui est une phrase terrible, parce que pour moi, plus on aime, plus on compte. Si votre amoureux ne vous offre pas une fleur au moment où votre anniversaire, voilà, inévitablement, vous allez le compter, et ça va être douloureux pour vous. Et cette idéologie qui clive entre affect et argent, mmh. cette idéologie-là est encore plus, j'ai envie de dire, transmise, incorporée et transmise par les femmes. Mmh. Donc c'est dans une dimension presque de la
nature. On le mélange en fait, le langage d'amour avec.
C'est ça.
Où là où je ne suis pas capable d'aimer, je remplace par l'argent. Peut-être.
Aussi. Mais en même temps, les femmes, pourquoi ? C'est peut-être une autre dimension. Pourquoi les femmes perdent leur indépendance et se mettent dans une position difficile pour elles-mêmes ? C'est qu'à partir du moment où elles se sentent investies du rôle du care, du prendre soin, de l'affect dans une famille, elles ne veulent pas s'intéresser. Voilà. Mm-hmm. Mais du coup, elles ne veulent pas s'intéresser à l'argent.
Mm-hmm. C'est comme si ça s'opposait alors que ça pèse les deux à la fois.
Exactement.
C'est magnifique parce qu'en fait, je voulais aussi toucher un autre sujet qui est plus le sujet de transmission. Et notamment, en fait, j'observais une vraie différence. Moi, je suis polonaise, de ce que je connais de ma famille ou de cercle d'amis. Enfin, parce que je parle de mon exemple, en fait, de ce que je connais. Je n'ai pas d'études nationales. Mais en fait, je vois que dans ce pays slave, on vit très, enfin, de façon très... proches, famille, vie ensemble, et oui. Les transmissions d'argent se font, j'ai l'impression, beaucoup plus tôt. On n'attend pas le décès pour l'héritage. D'accord. Il y a cette notion de partage de richesses, et je pense que c'est très inconscient, c'est pas forcément le choix, on imite, mais on veut que nos enfants vivent assez rapidement au niveau auquel la famille peut accéder.
D'accord.
Tandis qu'en France, j'observe, et c'est aussi c'est quelque chose que j'observe, donc je ne sais pas si c'est réel au niveau national, mais il y a cette idée de fais tes preuves parce que l'argent peut te pourrir ou peut enlever de la motivation ou peut te gâter au point que tu ne vas pas y arriver par toi-même, donc tu ne vas pas te réaliser. Et en fait, je veux avec vous contester cette thèse. Et j'ai lu un livre qui m'a vraiment aussi retourné le cerveau qui s'appelle Die with Zero. Et en fait, c'est un Américain qui disait, moi, vivant, j'ai envie de voir. Donc, mes enfants ont dû se former, je les éduquais. Jusqu'à 30 ans, ils ont eu, eux, créé leur colonne vertébrale. Donc, si à 30 ans, je commence à partager ma richesse et les voir, moi, vivant, comment, qu'est-ce qu'ils peuvent créer grâce à l'argent que j'accumulais, ça va m'épanouir beaucoup plus que moi mourir et ensuite transmettre ma richesse.
Bien sûr.
Et donc, je trouve que la question aussi d'héritage, on a tellement acté culturellement que ça vient avec la mort, que parfois on ne s'autorise même pas de distribuer la richesse en famille par peur de gâter. Alors que je trouve que c'est difficile de gâter un être à 40 ans qui a déjà son ambition, son trajectoire et son envie d'évolution ou pas d'ailleurs.
Tout ça, ça a à voir, tout à fait raison, je veux dire, effectivement, on est en France, mais je pense que dans d'autres pays latins, hein, européens et latins, je pense qu'on est sous l'égide de ce patrimoine hérité de la famille. Déjà, on n'en est pas propriétaire. Et du coup, on ne peut pas vraiment le donner. Donc, il ne sera...
Et d'où ça vient, cette désappropriation?
Je pense que c'est... Je ne sais pas pourquoi je mettrais quelque chose au niveau de la société romaine. Mm-hmm. Le patrimoine... Parce que d'abord, historiquement, le patrimoine va du père au garçon. Mm-hmm. Déjà, les filles...
Premier fils.
Premier fils, bien oui. sûr. Donc, il y avait vraiment quelque chose de très, très, très...
réglé.
Très réglé, très, 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 très juridiquement, hein, et depuis très longtemps. Donc, on est là-dessus. Et c'est vrai que nous, en tant que psy, on a formé beaucoup de médiateurs, beaucoup de notaires, beaucoup d'avocats, etc. On ne fait que recommander les donations du vivant.
C'est vrai?
Mais, ah oui, oui, oui.
Pourquoi? Quel est le lien avec ta psy?
Parce que, pour plusieurs choses. Parce que, déjà justement, donner de son vivant, c'est un véritable acte de don. C'est-à-dire qu'on donne parce qu'on sent que on va aider nos enfants. Et du coup, ça maintient vivant, on est vraiment dans quelque chose de vivant, ça maintient vivant un patrimoine aussi. Ça maintient vivant l'argent qui circule.
Exactement, on met donc, en mouvement, on revient
on
à l'idée de mouvement.
On le remet en mouvement, oui. On ne le laisse pas enfermé dans un coffre de banque ouais. ou même non, dans
et
un compte d'épargne.
Et aussi cette idée de au pire de cas, je les garde au pire, donc mais cet argent devient le symbole du pire.
C'est ça, ah, de toute façon, c'est l'angoisse. Mmh.
L'angoisse.
Alors, il y a quelque chose de, je pense qu'il y a aussi dans cette relation à l'argent et au patrimoine, je pense qu'il y a derrière ça des angoisses existentielles très fortes. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne peuvent pas donner. Donner, c'est une dépossession. Mmh. Et se déposséder de ce qui pourrait servir plus tard,
donc c'est la peur de manquer.
C'est la peur de manquer mmh. et c'est la peur aussi de la perspective de la mort.
Oui.
Aussi.
Donc c'est comme c'est si tout ça nous rapprochait vide. De la mort.
Voilà. Hein, donc donner, mmh. c'est se déposséder et c'est envisager sa mort. Mmh. C'est-à-dire que... Voilà. Et donc,
qui est tout à fait envisageable par ailleurs.
Oui, mais on a du mal, on a du mal à la penser. On a de plus en plus de mal à la penser. Mmh. Et c'est peut-être ça, parce que je pense que dans des cultures où on a gardé peut-être un peu plus de tradition, la mort fait partie de la vie, quoi.
Oui.
La mort est là.
Tandis que nous, c'est pas une surprise, et mieux vaut la préparer que
exactement,
se faire surprendre.
Exactement. Tandis que nous, on a la mort, c'est le mauvais goût extrême. C'est quelque chose presque d'étonnant. Donc, on ne la pense pas. Donc, c'est la même chose. L'argent, le tabou, le sexe et la mort, tout ça, il y a quelque chose d'un impensé qui fait qu'effectivement, on n'est pas préparé. Et au moment des héritages, la fratrie explose.
J'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment, tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womanempowermentschool.com/devenir-membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire. Enrichi par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta réprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live Zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer de nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau, You Are Enough, tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode.
Qui fait qu'effectivement, on n'est pas préparé, et au moment des héritages, la fratrie explose.
Donc peut-être aussi souvent. Le symbole de conflits familiaux
c'est clair.
Une boîte de Pandore qu'on n'a pas envie d'ouvrir.
Exactement. Alors, si vous voulez, au niveau des conflits au moment des héritages, j'ai souvent... Alors, on a parlé d'argent, on n'a pas parlé d'un concept qui me semble intéressant et qu'on a mis en évidence avec Bernard, justement. C'est ce qu'on a appelé la calculette inconsciente. C'est-à-dire que... des enfants dans la fratrie, voilà, entre parents et enfants aussi, des enfants, pour justement mettre montrer à quel point la doxa qui dit quand on aime, on ne compte pas, des enfants, on enregistre dans cette calculette inconsciente tout ce qu'on a attendu et qui n'est pas venu. C'est-à-dire tout ce qui a engendré un sentiment d'injustice, tout ce qui a engendré de la souffrance. C'est-à-dire dans cette calculette inconsciente, on va enregistrer peut-être le cadeau que mon frère a eu et que moi je n'ai pas eu. Mmh. Et on va enregistrer tous les mécomptes. Et il faut savoir que psychiquement, ce que l'on n'a pas reçu pèse plus lourd dans l'inconscient que ce qu'on a reçu. Donc, dans cette calculette
donc,
inconsciente...
ce qu'on a reçu, ça s'annule.
Ça s'annule pas parce que ça nous permet de grandir, mais on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir parce qu'on ne veut pas être redevable. Ah. Mais ce qu'on n'a pas eu, et dans un couple, c'est pareil. On ne va pas, soi-disant, compter, mais le café que mon mari ne m'a jamais offert ou que les vacances que j'attendais, c'est enregistré.
C'est un sac à dos qu'on
porte. C'est un sac à dos. Et au moment des héritages pour la fratrie, ou au moment des séparations pour les couples, j'allais dire, il y a un retour du refoulé, et du coup... du coup, dans les héritages, j'ai l'habitude de dire, les frères et sœurs vont présenter à la fratrie l'addition de ce qu'ils n'ont pas reçu de la part des parents.
Et c'est le moment quand ça déclenche, en fait,
que ça
déclenche.
Crise. Voilà.
Alors, c'est très intéressant parce que vous faites l'introduction à ma prochaine question. J'adore notre connexion dès le départ. Dans votre livre,
oui.
Donc Les trahisons nécessaires, vous posez cette hypothèse que grandir, c'est supporter le regard déçu de nos parents, de ne plus en souffrir ou être blessé pour leur jugement tacite. Comment devenir ce traître qui s'assume et qui est-ce qu'on devient finalement ? Quand on devient le traître.
Alors ça, c'est la réponse la plus facile. Quand on devient le traître, éthique et qui s'assume, on verra peut-être les étapes, si vous voulez.
Oui.
On arrive à cette cohésion avec soi-même. On arrive vraiment à cet ancrage de soi à soi. On arrive à cette réconciliation avec soi. Et une fois qu'on est réconcilié avec soi, alors bien sûr que cet entretien, etc., ce n'est jamais acquis, hein, c'est toujours à remettre sur le tapis. Une fois qu'on est réconcilié avec soi, on est réconcilié avec la vie. Alors, pour moi, une des premières choses qui est acceptée, c'est que de toutes les manières, on est NAIT, on est déloyal, on est traître.
Juste avant, j'aimerais se poser la question, pourquoi le regard déçu de nos parents ?
Ben justement,
voilà.
Parce que si vous voulez, parce que dans une famille, tout commence par un don. On reçoit la vie, on reçoit de l'amour, on reçoit des tuteurs de développement, on reçoit beaucoup de choses. Dans les dons, il y a aussi bien des choses que la névrose familiale. Hein, donc voilà. Au regard des dons, l'enfant d'emblée est en dette. Donc les dons créent des dettes qui, à leur tour, vont créer des loyautés. C'est-à-dire la loyauté. Être loyal, c'est répondre aux attentes des parents. Être le bon fils de maman, être le bon fils de papa, être le bon petit-fils de la grand-mère, être le bon frère du petit, etc. Donc, on est d'emblée enfermé dans des attentes énormes et des attentes souvent implicites et inconscientes auxquelles on ne pourra pas répondre.
On ne voudra pas.
On ne voudra pas, mais on ne peut pas. Mm-hmm. Parce que les attentes qui pèsent sur nos frêles épaules... sont énormes et on ne connaît pas lesquelles. On nous impose des injonctions au niveau des missions impossibles, de rattraper ce que les parents n'ont pas eu, de rattraper, d'aller découvrir peut-être des secrets. Donc, sur nos épaules pèsent énormément d'attentes. Donc, nul ne peut répondre à toutes ces attentes. Nul ne peut être loyal à la hauteur de ce qu'on attend de nous. Donc forcément, on va décevoir nos parents. Mmh. Et justement, grandir, donc on les trahit. On ne pourra jamais être là parfaitement où ils veulent. Parce que là aussi, il y a des choses qui sont contradictoires. Un enfant a besoin d'être rêvé par ses parents pour exister. Mmh. Mais pour devenir lui, il a besoin de sortir des rêves des parents, mmh, si ça ne correspond pas à ce qu'il est. Il y aura une partie de choses qui correspondent à lui. Mais voilà. Donc, il y a toujours ce mouvement de contradiction, si vous voulez. Mmh. Ce mouvement aussi paradoxal. J'ai besoin d'être rêvé, mais j'ai besoin de m'en libérer et de m'en défaire. Et donc, la trahison, c'est là la trahison qui est un petit peu la courroie de transmission. Donc, mes parents auraient voulu que je sois artiste, ou au contraire, ils auraient voulu que je sois avocat, et j'ai envie que d'une chose, c'est d'être artiste. Donc, forcément, aller vers moi, ne pas me trahir, va m'amener à trahir encore plus les attentes de mes parents. Et quelque part, ils vont être déçus, même s'ils sont fiers, si jamais je joue un très beau concert et qu'ils sont fiers de moi, ça ne va peut-être pas tout à fait compenser ce qu'ils attendaient de moi, parce que ce qu'ils attendaient de moi, ça répondait à leurs propres besoins. Ça répondait peut-être à une réparation par rapport à leur passé, à quelque chose, etc., de leur projection. Donc, il y a forcément une petite déception qui peut ne pas troubler, hein, mais en même temps, souvent, moi, ce que j'ai eu comme en consultation, ce sont des personnes qui continuent, même adultes, à 40, 50, 55 ans, qui continuent à ne pas avoir confiance en eux parce qu'ils se regardent avec les yeux de leurs parents. Ils se regardent à travers les regards de leurs parents. Et du coup, ils mésestiment, ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils sont parce qu'ils ne sont pas devenus ce que leurs parents attendaient d'eux. Et du coup, il y a un biais entre eux et eux, et tout le travail, et là, l'hypnose est merveilleuse. Hein, là, l'hypnose est merveilleuse parce qu'on leur demande quelque part de descendre en eux, de sentir leur propre présence, d'habiter, c'est un exercice que j'ai fait encore hier, d'habiter leur propre corps, d'habiter leur propre histoire, et quelque part, on éloigne le regard parental. Donc, on les libère voilà. C'est donc se ramener, là aussi, et dans le livre, ce qui a beaucoup touché les gens, quand je les autorise à réfléchir à ce qu'ils se doivent à eux-mêmes. Qu'est-ce que je me dois ? C'est bien d'être loyal vis-à-vis de cette famille jusqu'à un certain seuil, c'est bien d'être déloyal aussi, mais qu'est-ce que je me dois à moi-même ? Comment ne pas me trahir ?
Alors, parce qu'il y a cette histoire de si mes parents ne sont pas déçus, peut-être moi je serai déçue en fin de vie à ne pas vivre ma propre vie.
Exactement.
Mm-hmm. Donc il y a cette histoire de quelqu'un est déçu quelque part.
Exactement. Et je crois qu'il faut l'assumer ça. Et il vaut mieux. Parce que du coup, quand j'assume le regard peut-être déçu de mes parents, à ce moment-là, parce que dans toutes mes formations, j'ai aussi une formation systémique, hein, où je pense les choses en lien les unes avec les autres, si moi, il y a deux choses. Si moi, je me libère du regard de mes parents, si je me regarde moi en direct vis-à-vis de moi-même. Hein, je me reconnais moi-même. Et je me vois. Je me reconnais. Ça me fait penser, je fais une digression, mais ça me fait penser au travail de Paul Ricoeur, le parcours de la reconnaissance. L'importance du se reconnaître soi-même dans sa responsabilité. Et quand je me raconte à moi-même le récit de ce que je suis, dans ce que je suis capable de faire, dans ce que je ne suis pas capable de faire, dans ma réalité, je construis mon récit, construit mon identité. Il appelle ça l'identité narrative. Donc le se reconnaître soi-même est une étape excessivement importante. Donc à partir du moment où je me reconnais moi-même, effectivement, je n'attends plus quelque chose de mes parents, je n'attends plus quelque part, puisque j'accepte de ne plus être l'enfant parfait de mes parents, moi quelque part aussi, je les libère d'être des parents parfaits. Je les libère d'être des parents idéaux. Je n'attends plus d'eux qui m'amènent ce qu'ils n'ont pas pu m'amener. Et du coup, ça réouvre la relation.
Et je deviens responsable de combler mes propres besoins.
Exactement. Tant que j'attends que mes parents m'apportent cette reconnaissance dont j'ai besoin, hein, mais tant que j'ai mon regard tourné vers eux, je reste dans leur dépendance. Et du coup, je reste un enfant et je n'assume pas ma propre responsabilité. Je ne prends pas ma vie en main.
Hein? Donc, alors voilà. Parlons des étapes, parce que pour moi la première étape peut-être qu'on n'a pas abordée dans le livre, c'est l'étape à quel moment on vient vous voir, à quel moment c'est tellement insupportable de ne pas trahir sa famille que ça déclenche justement cette envie de chercher un thérapeute comme vous. Donc commençons peut-être par cette étape-là. À quel moment les gens viennent vous voir et quelles sont ensuite du coup les étapes pour reconditionner ce mode?
Alors, c'est vrai que... alors, à quel moment ça peut être à n'importe quel moment. J'ai pu recevoir des personnes de 65, 70, etc. Ça vient d'un malaise. Ça vient d'angoisse, ça vient d'un sentiment d'échec, d'avoir effectivement, d'avoir raté le train, hein, d'avoir loupé. Et encore une fois, pour moi, on peut toujours rattraper le train, on peut toujours réinventer quelque chose. Donc, pour moi, l'âge le plus merveilleux pour travailler ces trahisons nécessaires, c'est jeune adulte, 25, 30 ans. La révolution commence à l'adolescence. Quand les adolescents disent « mais j'ai rien demandé, je t'ai pas demandé quelque chose », c'est déjà se défaire de ces loyautés qu'ils sentent. Ils peuvent pas mettre des mots, mais ils sentent ces loyautés. Mais ils peuvent pas s'en défaire parce qu'ils sont trop dépendants financièrement, très dépendants psychiquement et trop dépendants effectivement de leurs parents. Donc c'est pas possible pour eux de se défaire. À l'âge de 25-30 ans, en général, ce qui amène les personnes hommes, femmes, et là à ce niveau-là j'ai presque autant d'hommes que de femmes qui viennent, c'est parce qu'un sentiment d'échec, un sentiment de tourner en rond, un sentiment justement
de ne pas être à sa place,
un sentiment, j'ai envie de dire, sourd de malaise. Mmh. Hein? J'ai tout ce qu'il faut et je ne suis pas heureux. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, donc, effectivement, à partir de ce moment-là, le gros travail que je peux faire, et c'est vraiment, ce sont vraiment des étapes, c'est déjà accepter que ce que j'appelle, moi, solder les comptes. Ce que je n'ai pas reçu de la part de mes parents, accepter, c'est un travail de deuil, mmh. accepter que je ne le recevrai pas. Justement cette reconnaissance, ce soutien, peut-être le fait que mon frère a été préféré par rapport à moi, donc cette négligence quelque part, hein, ou ce parent lui-même dépressif qui m'a pas, qui était pas à côté, qui ne me soutenait pas, accepter, et ça peut demander plusieurs séances, ça peut demander effectivement accepter, ne plus attendre.
Voilà, le deuil veut dire qu'on n'attend pas, on n'espère plus que cette personne change.
Voilà, exactement. Je n'attends plus de mes parents ce qu'ils ne peuvent pas me donner. Donc là, en général, cette étape n'est pas facile. Mais quand on y arrive, ça ouvre une liberté. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe de très positif? À ce moment-là, la personne est capable, ou je l'amène, à dire « Ok, vous n'avez pas reçu ce que vous étiez en droit, légitimement, d'attendre. Mais qu'est-ce que vous avez reçu, quand même, de vos parents ?» Et du coup, on va créer une espèce de filiation positive. Donc, au lieu d'être un fils d'un mauvais parent, je peux devenir, ou une fille d'un parent qui n'a pas su remplir son rôle, je peux devenir la fille d'un parent qui peut-être était dépressif et n'a pas pu s'occuper de moi, mais quand même qui était suffisamment fantaisiste pour que moi, à mon tour, je sois fantaisiste. Mmh. Et je veux me raccrocher à... Et donc, on va redonner du sens... changer la narration et effectivement retisser un lien avec du positif, ce qui va me restaurer énormément. Et du coup, je deviens encore une fois le fils d'une femme ou d'un homme suffisamment bien, et donc ça me restaure, je peux me libérer. Et à partir du moment, l'autre étape, et c'est là où justement on devient un traître éthique, parce que l'autre moment, pour moi le moment essentiel, c'est de reconnaître, non plus soi-même, mais de reconnaître et d'accepter la vulnérabilité de ses parents. Mmh. C'est-à-dire que je reprends souvent à mon compte une interprétation que j'avais entendue d'un rabbin, du cinquième commandement, respecte ton père et ta mère. Respecter se dit en hébreu kavod, qui veut dire lourd. Alors le rabbin qui avait expliqué ça disait on peut lourder ses parents, hein, on peut les mettre à la porte, etc. Mais le sens, c'est donner du poids à la fragilité et la vulnérabilité de ses parents pour ne plus avoir à la porter, pour ne plus se donner comme mission de réparer quelque chose de l'histoire de nos parents. Et à ce moment-là, on est vraiment libre. Et du coup, et là je pense qu'on est un traître éthique, parce que je peux désobéir à mes parents, je peux avoir été déloyal, avoir choisi une voie qui n'était pas celle dont ils avaient besoin pour moi, qu'ils voulaient pour moi et dont ils avaient besoin, mais en même temps, je reconnais le sens de leur fragilité et du coup, je m'autorise à ne plus la porter et à ne plus vouloir m'enfermer dans l'illusion que je vais pouvoir les guérir. Et ça, c'est une des dernières étapes. Quelquefois, hier encore, j'étais avec une patiente qui fait un travail magnifique. Mais là, je ne peux pas sauver ma mère. Je ne peux pas l'amener, d'autant plus quand les personnes ont fait déjà un travail personnel, qu'ils voient à quel point c'est libérateur et qu'ils voudraient emmener toute leur famille en thérapie. Je ne peux pas sauver ma mère ou mon père, c'est extrêmement douloureux. Et je ne parle pas, parce que c'est encore un autre sujet, des loyautés qui nous lient à l'égard de vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. C'est encore des loyautés invisibles, quelquefois encore plus puissantes que celles qui nous relient aux parents. Mais ce sera pour une autre fois.
Un autre sujet.
La fratrie.
Ah, mais je sens qu'il y a plein de sujets. Ça bouillonne. Alors, en fait, j'aimerais aussi parler de ces loyautés qui nous amènent parfois à l'idée que être déloyal voudrait dire créer de la souffrance.
Oui.
Et j'accompagne beaucoup de femmes en recherche de leur autonomie financière. Et comme ce que je découvre en fait souvent en faisant des sessions sur le subconscient, c'est qu'il y a cette idée que si j'ai réussi plus que ma mère, ou si je travaille sans que ça soit aussi dur que c'était pour ma mère, c'est comme si que j'allais la faire souffrir. Et donc, est-ce qu'on peut parler de comment du coup on lâche cette loyauté invisible sur notamment parfois des promesses de pauvreté quand on a envie de s'accomplir financièrement?
C'est très clair. Est-ce que vous liez ensemble loyauté et argent? Je crois que c'est quand même quelque chose que j'ai retravaillé, que je travaille régulièrement, que j'ai retravaillé récemment. Quand même, pour la petite histoire et pour la parenthèse, je ne reçois plus de nouveaux patients. Mais je peux envoyer à des gens que j'ai formés et qui sont d'une qualité extrême. Si vous voulez... Effectivement. Alors, comment vous pourriez reformuler votre question là?
Comment sortir de la pauvreté qu'on n'a pas choisie en fait?
Je pense que une des loyautés les plus invisibles, c'est effectivement, et une des trahisons, donc par rapport à ça, les plus douloureuses, c'est de réussir là où les parents n'ont pas réussi. C'est clair. S'autoriser, combien de fois, encore une fois, j'ai vu des gens en échec, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut dans leur propre jardin, mais ils ne peuvent pas être heureux là où les parents n'ont pas réussi. Ça peut être le couple, comme la question de l'argent. Et du coup, la question de l'argent vient en plus se superposer la question de du transfuge de classe. C'est-à-dire, si je change de classe sociale par rapport à mes parents, vraiment... Je les abandonne. Je les abandonne à leur triste sort, alors que eux m'ont apporté quand même un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment un sentiment de trahison énorme. Ce que je travaille, et ça encore l'hypnose peut m'aider, c'est qu'effectivement, ok, rester dans la fragilité de ses parents, la précarité, s'il y a une question de précarité, au nom de certaines loyautés, ne va sauver personne.
Et ça, c'est encore une fois très paradoxal.
C'est très paradoxal.
Parce que c'est qu'en ayant de l'argent, on peut réellement aider.
Exactement. Donc effectivement, rester patogé. Et du coup, là, j'ai envie de dire, ça parle de quelque chose de très viscéral. C'est vraiment un lien très archaïque à nos parents qui fait qu'on a envie de les tenir et de les protéger à notre tour. Et du coup, de ne pas lâcher ce lien-là. Et là, l'hypnose peut nous aider, parce que l'hypnose nous permet de travailler non pas sur une forme de rationalité, mais qui engage le corps. Et je peux prendre à ce moment-là des métaphores en transe, des métaphores de l'oiseau qui quitte le nid, mais le nid, du coup, a peut-être plus de place, et donc avec des métaphores qui montrent que le nid peut tout à fait survivre. Il faut arrêter cette illusion que nous, enfants, on peut sauver nos parents. Je veux dire, et donc les métaphores de l'oiseau qui prend son envol, du bateau qui quitte le port, pour accompagner l'acceptation par le patient, par la patiente, de quitter ce lien-là, parce que ce lien-là, il ne va pas se défaire, mais il va se transformer autrement. Je crois qu'il faut penser non pas en termes de perte, non pas en termes de rupture et de séparation, mais en termes de transformation.
Et création, finalement.
Et de création. Ça va recréer, ça va donner un souffle d'air.
J'ai des frissons parce que j'ai une phrase que j'ai préparée pour partager dans ce podcast. J'ai l'impression qu'on est vraiment... ça décrit exactement ce que vous dites maintenant. Dans votre livre, on peut lire que « aller vers soi ne peut se faire que dans une forme d'arrachement, une séparation qui est de l'ordre de l'abandon de ce qui nous a engendré. Chaque étape constitue une progression, un lieu d'apprentissage utile qui emmagasine des couches successives de soi. »
Oui, tout à fait.
Je trouvais ça très puissant, ce retour à soi, dans toute sa splendeur et cette idée que ça pourrait créer quelque chose de nouveau dont on a tous besoin.
On pourrait dire qu'il y a plusieurs choses. Si vous voulez, cet arrachement, je l'ai entendu aussi je me réfère à quelque chose de la Bible, hein, d'une façon très laïque, dans le « va vers toi » que Abraham entend de la part de Dieu. Dieu dit à Abraham, quand il devient un jeune adulte, « va vers toi, quitte la maison de ton père ». Ce « va vers toi », donc pour moi, c'est une injonction... c'est presque un devoir humain. C'est anthropologique. C'est une dimension anthropologique. C'est être humain, c'est être dans sa dignité, c'est oser aller vers soi. Donc effectivement, pour aller vers soi, donc d'où le mouvement de trahison dont on parlait tout à l'heure, on quitte. Mais on quitte, et ce qui est intéressant finalement, je ne me rappelle plus, j'avais écrit cette phrase, mais ce qui est intéressant, c'est de, effectivement, par la suite, on grandit, et on ne cesse de grandir, hein. Parce que de grandir, c'est devenir autre à chaque fois. Et devenir soi, c'est jamais, on n'aboutit jamais à un soi. Donc c'est s'ouvrir à d'autres étapes. C'est toujours transformer. Mais surtout, et c'est peut-être une façon pour moi de parler de ce que j'aime dire, c'est avoir une. J'aime bien parler d'assises existentielles. C'est-à-dire de se sentir suffisamment présent à soi pour être ouvert à la vie, comme on le disait tout à l'heure, parce que justement, comme cette phrase le dit, on s'est nourri des différentes couches de sédiments que toutes les rencontres que l'on a pu faire nous ont permis de déposer en nous. Et du coup, ça peut nous permettre de tenir malgré les secousses de la vie. Hein? Donc, ça ramène à une chose que je n'ai peut-être pas suffisamment développée dans mon livre, mais... puisque vous vous intéressez tout à l'heure à une question très personnelle, je pense que ce que je découvre au fur et à mesure, c'est que la richesse de notre existence, notre ouverture aux autres, parce que finalement, trahir pour grandir et pour redevenir soi, finalement, ça nous ouvre de plus en plus sur les autres, là aussi paradoxalement.
Hein,
plus je suis moi à l'aise avec moi-même, moins j'ai peur des autres, plus je les accueille, plus les autres me transforment, et puis du coup on est naturel, et puis voilà, on avance, et puis on fait comme dans ce podcast, on discute, et puis on apprend mutuellement des choses. Et donc Lévinas disait, la rencontre éthique, c'est une rencontre dans laquelle, au bout de laquelle on sort les uns et les autres transformés par l'autre. Hein, donc moi ça j'adore.
Bien sûr, moi aussi.
Voilà, donc effectivement, ce mouvement-là est... Donc, pour en revenir à l'expérience que je fais et que je mets en mots un peu différemment aujourd'hui, c'est parce que quand on est capable de recevoir.
Justement, quand je reviens du coup à cette question, je pense, dont vous pensez, c'est quel était votre chemin personnel pour trouver votre juste place dans votre famille ? Alors, elle est très importante pour moi cette question parce que je suis persuadée que parmi toutes les femmes qui nous écoutent, il y a beaucoup de mamans et qui se disent, comme cette femme que j'entends, a beaucoup compris. Qu'est-ce que je peux prendre pour moi, pour moi-même créer des conditions pour que mon enfant puisse trouver sa place?
Tout à fait. Parce que ça, dans ce que vous dites, c'est très, très intéressant. Pour moi, être parent, ça ne se joue pas seulement entre moi et mes enfants, ou mes enfants et moi, mais ça se joue sur les trois générations. Plus moi, j'aurai pris ma place, moi, plus je me dégagerai du regard parental et de ma dépendance vis-à-vis de mes parents, et plus je serai indépendant par rapport à leur regard, et je ne serai plus dans cette attente tournée vers eux, mais à ce moment-là, je serai vraiment présente auprès de mes enfants. Alors, je ne sais pas ce que diraient mes enfants. Je pense que mes petits-enfants diraient que j'ai été une grand-mère très présente. Mes enfants, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'étais. Mais ce que je crois que j'ai fait... Je crois qu'effectivement, j'ai mesuré à quel point j'ai reçu beaucoup de choses de différents personnages de ma famille. J'ai reçu un amour et une bienveillance. J'avais un grand-père, mais extraordinairement bon, d'une bonté, mais incroyable. Je me rappelle que la veille de sa mort, c'est vraiment très personnel ce que je vous raconte, mais la veille de sa mort, il a eu une crise cardiaque. J'étais enceinte et je venais de dire comme ça par hasard, on habitait tous un grand pavillon, hein, et j'avais dû le croiser en disant « Oh, j'ai envie d'un pain au chocolat, enfin n'importe quoi ». Il devait être fatigué parce que sa crise cardiaque est arrivée le lendemain. Okay. Il est allé, j'en ai des frissons quand même. Voilà. Donc ça, c'était mon grand-père, donc j'ai reçu ça. Ma grand-mère était une femme d'une droiture extraordinaire, avec une dimension spirituelle merveilleuse. En même temps, je souris parce qu'à chaque fois, l'un et l'autre, par exemple, ils étaient dans des excès. Hein. Mais ça va, hein, j'ai oublié les excès. Et c'est pas ça que je tiens. Mon père, qui était un fantaisiste, qui a fait souffrir ma mère, hein, qui a été fantaisiste, qui l'a trompé, etc., à qui j'en ai voulu. Mais en même temps, je crois que c'est de lui que j'ai eu cette liberté, cette créativité, et puis ce sentiment de à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? C'était une philosophie, toujours. Il avait un, je ne sais pas ce qu'on peut dire, enfin pas un dicton, mais enfin je veux dire une espèce de mythe. Il y avait un mythe familial finalement dans sa famille à lui, qui disait, chez nous, on est comme des bouchons de champagne, on peut tomber au fond, mais toujours on remonte et ça pétille comme du champagne. Alors avec ça, effectivement, je pouvais...
On est invincible avec
voilà, avec ça, quand on va... forcément, quand je vais vers le bas, je dis, bon, alors le bouchon, quand est-ce qu'il monte et quand est-ce qu'on ouvre le champagne? Et du côté de ma mère, alors ma mère aussi, c'était comme dans la lignée de mon grand-père, c'était une bonté extrême, mais d'une grande fragilité. Je pense que le plus grand travail que j'ai pu faire de trahison, mais en même temps d'affection, elle était dépressive, donc elle avait besoin que j'étais son soutien, hein, jusqu'au moment où j'ai pris un peu de distance. Mmh. Et à partir du moment, des crises d'angoisse, etc., à partir du moment, et ça c'était des moments extraordinaires, où tout en lui tenant la main quelque part, j'ai pris un peu plus de distance, c'est incroyable. Elle s'est trouvée des nouvelles copines, elle a fait un certain nombre de choses, et elle est redevenue vivante à un moment donné. Donc je veux dire, voilà, j'ai appris tout ce que je voulais.
Je l'ai appris
dans ma propre histoire.
Mais vous avez commencé par cette phrase, je crois que mes petits-enfants vont dire que j'étais présente, ou que je suis présente. Et quelle est cette place de présence physique dans l'éducation de nos enfants? Parce qu'aujourd'hui, on est dans cet âge, en 30-40 ans, on a tout approuvé professionnellement. On construit aussi notre vie financière. Et à la fois, on se doit cette présence face à nos enfants, parce que s'ils sont là, c'est... Parce qu'on a envie d'être ensemble.
Bien
et donc,
sûr.
Comment on mesure cette culpabilité? Enfin, comment justement, où est la place à la culpabilité de comment je suis disponible à tout, à la
et
fois?
Oui. Et c'est là où la notion de trahison est importante. On ne peut pas être présent à tout le monde. Mm-hmm. Et c'est là où effectivement, si on prend l'exemple aussi des femmes de votre génération, 30-50 ans, 30-40 ans, ce sont des femmes qui forcément vont être tiraillées, hein, comme moi j'ai pu l'être. Moi j'étais énormément aidée par ma mère, donc c'était formidable, mais j'ai beaucoup travaillé. Je crois que, alors c'est très banal de le dire, hein, mais je crois que c'est vraiment c'est pas dans la durée de la présence, c'est vraiment dans la qualité. Et je pense que ce qui est énorme pour nos enfants, c'est qu'ils nous voient, c'est vraiment l'exemple qu'on leur donne. C'est voir quand ils nous voient ne pas s'enfermer dans des positions de victime, prendre les problèmes les uns après les autres, c'est énorme, on leur donne beaucoup. Donc c'est pas forcément en faisant des gâteaux, en faisant des gâteaux avec eux c'est formidable, mais en même temps quand ils nous voient vivre et quand ils nous voient vraiment... prendre les choses en main, là, on leur fait le plus beau cadeau qu'ils puissent avoir. Et quand on, à travers l'argent aussi, à travers la question de l'argent de poche, est pour moi un moment très important, parce qu'on peut leur transmettre beaucoup de choses, de nos valeurs par rapport à l'argent. L'argent est nécessaire, c'est important de vouloir avoir de l'argent, mais en même temps, ne pas en faire un instrument de pouvoir. C'est vraiment la question, et apprendre à consommer. Donc, je pense que la question de l'argent de poche est vraiment un moment essentiel. Mais surtout, et c'est à partir de l'expérience que j'ai pu avoir quand j'ai reçu beaucoup d'enfants, je ne recevais pas que des adultes. Encore une fois, je ne voulais pas être enfermée dans une tranche d'âge, donc je recevais des enfants et des adultes et des adolescents. Surtout, montrer à nos enfants qu'ils sont importants pour nous. Les enfants que je recevais pouvaient être meurtris parce qu'ils... Et donc, ne pas se plaindre auprès de nos enfants, rester des adultes auprès d'eux, être des êtres matures et qui ont déjà grandi, donc grandir pour nous, mais grandir pour eux. Les enfants que je pouvais recevoir en consultation me disaient, mais tu sais, ils étaient très coupables, parce qu'ils avaient l'impression d'épuiser leurs parents, d'être vraiment en trop, que ça dérangeait, voilà, ils avaient vraiment l'impression qu'ils gênaient. Parce qu'on leur dit, c'est facile de dire, ah, je suis fatiguée, ne m'embête pas, attends, etc. Toutes ces phrases-là que l'on dit, parce que voilà, ça nous échappe, mais être mesuré à quel point il faut aussi dire du positif. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux d'avoir avec moi. C'est fatigant, moi je le dis à mes petits-enfants. Je ne sais pas si je le dis à mes enfants, mais qu'est-ce que vous êtes fatigant, mais qu'est-ce que j'adore être avec vous. Et leur montrer qu'on reçoit d'eux. Vous voyez, c'est ça qui est essentiel. C'est fatigant de vous donner, même de vous donner à manger, aller faire des courses, des adolescents, c'est sans fin. Mais en même temps, voilà, donc pensez à dire à nos enfants à quel point ils sont importants. Et qu'est-ce que c'est merveilleux de pouvoir partager et recevoir d'eux. Apprendre à recevoir de nos enfants. Ça, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Et c'est la plus belle présence à eux. Donc, ce n'est pas en termes de chronologie.
C'est incroyable. Je suis très touchée par ce message. Et vous faites clairement partie de ces femmes qui se sont permises d'inventer la direction de leur métier. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots pour toutes celles qui se sentent encore bloquées, qui ne s'autorisent pas d'avancer vers la direction qui les attire, qui se disent « est-ce que cet effort va être compensé ?» Peut-être je vais échouer, donc à quoi bon d'essayer. Par quoi ça commence et comment on peut encourager ce mouvement justement et pourquoi ça vaut le coup de se donner cette chance.
Bien sûr. Alors, je pense que c'est important. J'en parlais encore avec mon mari l'autre jour. Oser avec une certaine dose d'inconscience. Oser malgré la peur. Oser malgré les risques. Alors bien sûr, s'ils ne sont pas des risques absolument, voilà, des risques fous. Mais oser et ne pas avoir peur de ses propres peurs et ne pas avoir peur finalement de se sentir illégitime. Combien de fois on a pu entendre, mais je me considérais comme un imposteur. On peut-être croire qu'on est imposteur, mais on l'est pas souvent, finalement. Donc, se donner à soi-même une légitimité. Là aussi, ne pas être dépendant d'un label que quelqu'un d'autre nous donne. C'est-à-dire que là aussi, c'est se connaître soi-même. C'est être en accord avec soi. Quand on a cet alignement, quand on travaille vers cet alignement, à ce moment-là, les choix... se déroule relativement facilement. Moi, j'ai eu le sentiment, si vous voulez, d'avoir beaucoup. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, mais je pense que j'ai réalisé beaucoup de choses sans forcément vouloir les réaliser. J'ai réalisé beaucoup de choses parce qu'il y avait une curiosité qui m'amenait à découvrir.
Que vous avez pris au sérieux au départ.
Que j'ai pris au sérieux. Que j'ai pris au sérieux. J'ai pris au sérieux parce que j'aime jouer. Et que je ne joue pas au jeu, mais j'aime, et là j'ai un psychologue anglais qui a été le premier à travailler avec les enfants, Winnicott, qui a mis en évidence l'importance du jeu. Le jeu, c'est le terrain sur lequel on apprend à être avec l'autre. On apprend à céder sa place, mais à jouer. Enfin, je veux dire, le jeu, c'est quelque chose de très puissant, hein, et de très important dans la relation à l'autre. Donc, je crois que j'ai été très curieuse. Je crois que ce qui m'a poussée, c'est ne jamais m'ennuyer. Je crois que ma clé, mon moteur, c'est quand effectivement j'avais le sentiment d'avoir, voilà, je suis passée de la philo à la psychanalyse, de la psychanalyse à la systémie, de la systémie à l'hypnose, l'hypnose à la formation, de la formation à la supervision. Voilà, on parlait du mouvement tout à l'heure, c'est sûr, voilà. Mais il y a peut-être des gens qui ont besoin de s'arrêter, je veux dire, être en accord avec ses propres besoins. J'allais dire, ne pas peur de se fatiguer soi-même. Parce qu'effectivement, mais se donner toujours des moments de respiration. Je bouge beaucoup, mais je me donne des moments où je ferme tout.
Oui.
Pendant 24 heures, 48 heures, je ne regarde même pas mon téléphone. Quelquefois même mes enfants, je ne les entends pas. Parce que là, voilà, il y a un moment où je me... Et ce sont des séances d'hypnose qui peuvent permettre ça aussi, ou de méditation. Hein. Ça y est, je me replie. Donc, je me réordonne avec moi-même, je me réaligne et hop, je peux repartir. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous,
extrêmement
mais pour
clair.
Moi,
mais curiosité. Mais ça, c'est programmé, ça vous l'incluez dans votre semaine, ces moments de... où c'est quand
non,
ça
c'est
arrive,
quand ça vient.
Vous le ressentez et à ce moment-là,
alors,
quoi qu'il arrive, vous annulez par exemple des rendez-vous ça, si c'est...
Voilà, ça a pu m'arriver, quelquefois je patiente en disant là, voilà,
heureusement
que
c'est pas tombé
jours.
Pour cet
voilà.
Après-midi.
Oui, c'est ça. Non, ça va, je reviens, donc ça, j'en reviens à peine, donc ça va. Mais effectivement, ce sont des moments, je pense que là aussi, quand je dis se connaître soi-même, ce n'est pas se connaître intellectuellement, hein, c'est vraiment se sentir. À des moments, je sens que les autres me débordent.
Et ce rythme intime, qui, quelque part, qui est que le vôtre.
Tout à fait, tout à fait. Et je respecte cette intimité de moi à moi. Alors, encore une fois, quand je ne peux pas, ce n'est pas grave, des fois ça me soulage. Ok, je suis dans la tempête parce que je continue à faire des milliers de choses, plein de plans, Bref, ok, j'aime le mouvement, mais j'ai besoin de temps en temps de m'arrêter. Si je suis dans le mouvement alors que je sens que j'aurais besoin de m'arrêter, je prends mon agenda, je planifie 2 ou 3 jours en me disant là, pendant ce temps-là, plus personne n'existe. Ne serait-ce que de prendre cette décision-là, ça me permet déjà... de faire tomber la pression et je me réaligne avec moi-même. Ça me fait penser à la position du thérapeute en hypnose. Quand, et ça me, je le travaille avec les personnes que j'ai eues en formation, que j'ai en supervision, c'est être tranquille dans l'intranquillité. Le patient nous déborde parce que c'est douloureux ce qu'il vit et il nous emmène dans son chaos. Donc moi, je peux vivre mon propre chaos, mais à un moment donné... Ce chaos-là, je l'accueille, je l'accepte, je le traverse, si je ne peux pas faire autrement, si je ne peux pas m'isoler, et je colle à ce chaos-là. Oui, en ce moment, c'est n'importe quoi, je n'en peux plus, mais c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a aussi une réalité. La liberté, c'est aussi accepter une certaine part de réalité. Je ne peux rien faire d'autre, donc je prends et j'affiche mon sourire. Mon sourire m'a beaucoup aidé. Alors là, le sourire, je l'ai eu, je veux dire, c'est une forme d'héritage.
C'est magnifique, gardez-le, parce que...
Mes parents souriaient malgré tout, mes grands-parents avaient toujours le sourire, encore une fois, malgré tout. Et je pense que là, je m'accroche à ça, je pense que spirituellement, je sais aussi... Il y a un exercice d'hypnose que j'adore... faire aux autres, mais que je garde pour moi aussi, c'est d'imaginer le lieu sécure, d'imaginer un endroit où on est bien, où, voilà. Et ce lieu-là, quelquefois, mais souvent, pour moi, c'est une espèce de lac de montagne. Et je le sens là. Hein. Et quand tout va mal et que j'en peux plus vraiment et je ne peux rien faire d'autre, eh ben, je me prends ne serait-ce que 5 minutes où je retourne dans ce lac de montagne.
Moi, je l'appelle le lac cristallin.
Ah ben
dans
voilà.
Mes méditations qui purifie, qui calme et qui est toujours disponible quand on ferme
qui
les yeux
là.
Finalement
voilà, qui est là en nous et à notre disposition, donc nos ressources elles sont là, voilà comment je me débrouille avec moi-même.
Nicole, Nicole, on pourrait passer la journée ensemble. Mais je sais que notre temps est limité. Merci infiniment pour cette générosité, pour cet accueil.
Merci de vos questions.
Je suis vraiment ravie de pouvoir le diffuser et partager tout ce que vous avez accumulé comme sagesse avec toutes les femmes qui m'écoutent.
Merci beaucoup en tous les cas de votre accueil aussi. J'ai reçu. J'ai donné, mais j'ai reçu.
On a un échange d'équivalent.
Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool@gmail.com ou via Instagram womanempowermentschool. À très bientôt.